c'est Guillaume de Uffredi. Vous l'avez déjà rencontré pour son édition Les Passionnés de Bouquins.
Salut Delphine.
Ça va?
Oui, très bien.
Donc ton édition, on la trouve sur un site, c'est ça?
Oui, tout à fait. Sur le site de lespassionnésdebouquins.com, sur le site de la maison d'édition, avec toutes les infos et toutes les nouveautés.
Donc on va présenter quelques livres que tu nous as amenés. Et puis donc la thématique de cette édition, c'est de parler de Lyon et de ses environs, dans les romans et dans des documentaires.
Oui, tout à fait.
Alors aujourd'hui, quelques petites infos. C'est Nicolas Chona qui nous dit qu'il sera en concert pour la fête de la musique le 21 juin au Hard Rock Café et le 30 juin aux abattoirs de Bourgoin. Et puis ça s'est fait hier, donc j'ai eu un petit coup de fil et je rencontre Magali et Hervé aujourd'hui. Bonjour et merci d'être venu jusque.
Bonjour, merci à vous.
Bonjour.
D'être venu jusqu'ici, ça va? Vous avez trouvé facilement la radio?
Oui, bah c'est une institution sur Lyon.
On a fêté les 40 ans de la radio il n'y a pas longtemps.
Voilà.
Donc, et puis, donc vous venez de la Friche Lamartine.
Tout à fait.
Vous officiez.
Résident permanent de la Friche Lamartine. Et on a créé une structure qui va porter un événement dont on fait la première édition le 1er juillet. Parc Bazin à Montchat.
Alors vas-y, dites-nous tout, les dates, le lieu, qu'est-ce qu'il y a?
Donc c'est un événement qu'on a monté dans le cadre de Tout le monde dehors, avec un partenariat avec la MJC Montchat. Donc on invite la MJC Montchat à tenir tout l'après-midi avec des jeux pour enfants qui sont proposés dans le cadre de Montchat Joue, je crois.
C'est ça.
Et on livre une pièce de théâtre qu'on a montée avec les enfants de la MJC Montchat dans l'après-midi, qui s'appelle Le Grand Méchant Carouf. Pièce montée par Thomas, écrite et jouée par Thomas Arnera. Et ensuite, on enchaîne sur des concerts et DJ set. Voilà, donc le 1er juillet au Parc Bazin, à Montchat.
Comment on y va?
Il y a des accès tramway, bus, vélo, à pied, en voiture.
Donc c'est toute la journée,
c'est ça? C'est toute la journée.
De 15h à minuit. C'est le festival Soul Truck, le nom de l'événement.
Donc il y a des groupes, toi tu joues dans un groupe, Hervé?
Oui, je joue dans un groupe, mais qui ne jouera pas pour ce festival-là, en tout cas sur cette édition. Non, on a un DJ sur lequel le thème du festival s'est bien appuyé, c'est The President of Love, qui est un DJ un peu foufou, qui amène une douce folie sur son set, qui est un personnage avec un rôle très festif et une playlist assez efficace, groovy, funky. Voilà. Ensuite, on a que des groupes lyonnais. On a Mooney Delight avec Gwen et David, qui sont deux artistes accomplis, qui sont résidents permanents de la Friche Lamartine également. C'est un duo qui fait des covers en mode électro. C'est vraiment très agréable. Ça commence à 19h. Voilà. Je vous invite à venir les voir. C'est assez particulier et vraiment pour l'été, c'est top, quoi.
C'est chaleureux. Très
chaleureux. Vas-y, tu peux.
Ensuite, après Mooney Delight, il y a l'artiste Zacharos qui va se produire. Donc lui, c'est un style musique électro sous fond d'influence afro-américaine, un peu d'acoustique. Il est seul sur scène, c'est pas mal à voir. Et pour finir, il y a le groupe Eat a Kid, donc le groupe de rock lyonnais qui vient enflammer la piste pour finir la soirée de concert. Et la clôture du festival se fait avec de nouveau DJ President of Love.
Alors Eat a Kid, je leur fais un petit coucou parce qu'ils sont déjà venus dans l'émission Patch World. Donc vous pouvez réécouter sur le blog de Patch World le podcast de l'émission où ils sont venus il y a un ou deux ans, je crois déjà.
D'accord. Oui, c'est un groupe qui a quelques années. Là, ils reviennent en force cette année avec une petite créa, des choses comme ça.
Alors c'est très rock, hein, c'est très dynamique. On sent les influences un peu des Doors, enfin de plein de groupes.
Oui, clairement, il y a une grosse influence de Doors. Ils ont un chanteur qui est quand même assez emblématique sur scène. C'est un peu un revival du rock'n'roll à l'ancienne. Et oui, on adore ça, quoi. Voilà.
On a dit l'essentiel.
On a dit l'essentiel.
De toute façon, il y a encore le temps,
gratuit.
Donc vous pourrez venir passer des informations avec grand plaisir.
Avec plaisir.
Eh bien, puisqu'on parle de rock, on va faire une petite transition musicale avec un groupe de rock que je vous fais peut-être découvrir, ça s'appelle les Backroads, et c'est un groupe lyonnais. Vous êtes en direct dans l'émission Patchworld et je faisais découvrir à mes invités le groupe Backroads. Ça va, Guillaume ?
Oui, très bien.
Alors, les Backroads, première impression ?
J'ai bien aimé, j'ai bien aimé.
Ça réveille ?
Ça réveille, oui.
Malgré la chaleur ambiante dans les studios.
Il faut mettre ça à 7h du matin quand on se lève, comme ça.
Voilà, on démarre bien la journée et on peut le mettre dans les autoradios, n'importe où. Alors, on a un autre invité qui vient regarder les studios, c'est Quentin. Et tu es en stage dans une association, tu m'as dit, raconte-nous. Et puis du coup, tu m'as dit que tu connaissais le groupe Backroads. Je te laisse, ça peut intéresser d'autres auditeurs, l'info que tu nous as dit sur le métal français.
Alors oui, je m'appelle Quentin, donc je suis stagiaire pour le Pélican, qui est une association d'événementiel et culturel sur Lyon. Là, le Pélican se reforme pour créer d'autres événements, que ce soit musicaux ou peut-être ouvert peut-être à d'autres artistes, à d'autres arts. Et je viens aussi pour regarder une technique radio, pour voir comment marche une émission radio et tout, parce que j'aimerais bien être animateur radio. Et pour Backroads, je les ai découverts par un ami à moi qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Metaliqua, donc M-E-T-A-2-L-I et quoi Q-O-I. Pardon. Et du coup, il a une sous-chaîne où c'est Made in France. Et il parle que du métal français. C'est très ludique, c'est très marrant. C'est un Lyonnais. Et du coup, il dit voilà, je peux pas passer à côté du groupe lyonnais phare de ces dernières années, donc Backroads. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Il y a plein de groupes de français à découvrir. Et c'est très, très fun.
Merci Quentin. Donc, les Backroads, en plus, c'est le nouvel album qui vient de sortir. Sylvaine, la chanteuse, est venue nous en parler. Donc, vous pouvez aussi podcaster l'émission où elle parle, où elle fait la traduction des textes, où elle explique comment elle s'est inspirée de certains de ses textes, pour écrire les chansons. Et je suis contente de faire découvrir ce groupe. Et je fais un petit coucou à Sylvaine, la chanteuse. Alors aujourd'hui, sans transition, on parle de musique, mais il y a toujours des liens quand même. À la rythmique des livres, des livres lyonnais aussi. Voilà, après les groupes lyonnais, les livres quand même qui parlent de Lyon et de la région. Guillaume de Huffredui qui fait son site et son édition de. Bah, je te laisse la parole, tu seras mieux présenté que moi, est-ce que tu
veux. Oui, la maison d'édition, c'est les passionnés de bouquins. Et effectivement, on publie uniquement sur la dimension lyonnaise ou régionale, autour soit de romans policiers, plus ou moins sombres suivant les titres, mais qui ont tous un ancrage lyonnais, et puis autour aussi de documents, de livres plus de sciences humaines, mais là aussi avec un fort ancrage régional. Donc du coup, on peut retrouver effectivement toutes les informations sur le site internet, c'est www.lespassionnésdebouquins.com. Et puis c'est l'occasion aussi de voir toutes nos nouveautés qu'on sort assez régulièrement. Et on essaye aussi d'être présent avec les partenaires lyonnais, c'est-à-dire les libraires, les maisons de presse, et puis d'être présent aussi sur les salons du livre qui ont lieu dans notre ville. Le prochain Fête du Livre, qui aura lieu dans le premier arrondissement de Lyon, ça dure toute une semaine, du 19 au 24 juin, avec tous les partenaires du secteur du livre du premier arrondissement de Lyon, donc les libraires, les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, vraiment tous les partenaires. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs le programme en mairie. Et il y a plein de choses intéressantes. Nous, on interviendra deux fois. On interviendra le samedi 24 juin, où place Satonnet, toute la place sera remplie de stands d'éditeurs et de stands d'auteurs. Donc on aura un stand et on sera présent là avec certains de nos auteurs. Et puis on intervient aussi le 22 juin, le jeudi 22 juin, avec une conférence à la mairie du premier arrondissement à partir de 18h30. Une conférence sur Lyon au Moyen-Âge, enfin plus particulièrement le premier arrondissement au Moyen-Âge, avec tous les côtés sombres de cette époque, qui sera animée par Nicole Gontier, qui est une prof d'histoire médiévale à l'université Lyon 3.
Donc tu nous as amené trois livres aujourd'hui.
Oui, alors j'ai amené trois livres. On peut peut-être effectivement commencer par celui-ci, par le livre de Nicole Gontier, qui s'appelle Sortilège meurtrier, qui donc est au Moyen-Âge, qui se passe à la fin du XVe siècle, sous le règne de Charles X. Ça tourne autour de l'univers de la sorcellerie. Forcément, c'est un univers qui était très très présent à cette époque-là. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, elle part d'un fait divers qui a vraiment eu lieu à cette époque-là. Elle a accès aux archives de la ville de Lyon. Et elle part donc d'un petit fait divers et d'un enquêteur, donc un prévôt à l'époque, qui a vraiment existé, qui a vraiment mené une enquête dans ces milieux-là, pour savoir exactement ce qui s'était passé autour de ce meurtre. La piste de la sorcellerie a été notamment longtemps envisagée. Ensuite, elle tisse tout un roman policier autour de cette thématique-là et autour de ce fait divers-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment une plongée dans Lyon à cette époque-là, dans le Moyen-Âge en fait qu'on connaît assez peu, et toutes les, comme je disais tout à l'heure, toutes les parties un peu sombres qu'il pouvait y avoir, surtout à Lyon, au XVe siècle.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend un peu de Lyon au Moyen-Âge dans ce roman ?
Alors déjà, ce qu'on apprend, c'est
ça
que...
Ça se passe où d'ailleurs sur Lyon ? Est-ce que c'est la Presqu'île ? Parce que c'est encore la campagne, la Croix-Rousse.
Alors voilà,
oui. Qu'elle se situe où ?
Alors déjà, c'est ça, c'est que Lyon au Moyen-Âge, c'était pas du tout Lyon comme aujourd'hui ou Lyon comme à l'Antiquité, c'était quand même déjà beaucoup plus petit. Qu'il y avait un certain nombre d'arrondissements où il y avait absolument rien. Et tu parles de la Croix-Rousse, on peut dire qu'au le 6e arrondissement, il y avait absolument rien. Hein, c'était que des champs, les brotteaux, c'était des marécages. C'est un arrondissement que tu connais bien, c'est pour ça que je prends celui-ci en exemple.
Il n'y avait pas encore de parc. Hein.
Voilà, ouais, il n'y avait pas encore le parc, ouais. Il n'y avait absolument rien. on apprend aussi que bah, y avait certaines rues, certaines ruelles qui existaient déjà un petit peu à l'époque. Et puis on apprend aussi le fonctionnement en fait d'une grande ville de l'époque en fait. Hein, donc les égouts, l'arrivée des eaux, tout ce genre de c'est vraiment une plongée dans le Lyon moyenâgeux de l'époque. Et rien n'est inventé en fait. Si tu veux, du fait qu'elle soit professeure à l'université, qu'elle maîtrise complètement son sujet, qu'elle soit maître de conférence, tous les éléments qui sont à l'intérieur du livre, c'est des éléments vrais. Donc certes, c'est un roman policier, mais ça permet d'apprendre aussi un certain nombre de choses. Ouais.
Donc elle parle des souterrains, du vieux Lyon peut-être.
Alors elle parle du violon, elle aborde pas forcément les souterrains, qui étaient plus abordés dans un autre livre qu'on avait fait et pour lequel tu avais consacré une émission, le livre de Julie Subirana, Les enfants indigos, où elle abordait bien justement les arêtes de poissons, les souterrains lyonnais et leurs mystères, dont on sait pas trop d'où ils viennent, de quelle époque ils datent, etc. Donc elle, dans Nicole Gontier, dans Sortilège meurtrier, elle en parle pas spécialement. Mais c'est oui, c'est plus une plongée globale sur l'univers du Moyen-Âge à Lyon. Ouais.
Est-ce qu'il y a un extrait par exemple où tu peux nous lire un extrait où elle parle d'un contexte sur Lyon, si tu as eu le temps de noter, je ne sais pas.
Alors de toute façon, dès le début, on est complètement plongé dans Lyon. Hein. Donc je peux lire effectivement la première page, hein, le début, donc le premier chapitre. Qui s'intitule « Mort suspecte ». Donc mardi 21 octobre 1454. Messire Jeannin d'Avras titubait dans la ruelle de l'hôpital. Sous ses pas, les pavés de bois rendus glissants par la pluie devenaient périlleux. Chacun de ses efforts pour avancer compromettait l'équilibre instable de son corps. Mouvoir une jambe après l'autre lui était de plus en plus difficile. Elles étaient devenues de plomb. Luttant contre l'inertie de ses membres inférieurs, il tendait désespérément les bras devant lui, puis les ramenait le long de son buste, en haletant, comme s'il eût nagé dans une eau épaisse et visqueuse. Il apercevait, si proche et si inaccessible à la fois, au bout de la voie étroite qui longeait les hauts murs de la chapelle, la façade de sa maison, sise au carrefour de la rue de Boucharnin et de la rue Confort. Il tenta d'appeler à l'aide, mais de sa gorge, incendiée par une soif dévorante, ne s'échappa qu'un son ridicule, une sorte de couinement rauque et inarticulé. Ses lèvres formaient les mots « vainement ». Des glaires amers envahissaient sa bouche. Son épaule droite heurta la muraille. De la main gauche, il chercha alors un appui pour parer la chute, mais ne put éviter à son front de venir buter sur les pierres du parement. Un filet de sang coula le long de son nez. Il fit encore un tour autour de lui-même avant de s'abattre sur le sol, tête la première. Bientôt, 13 coups sonnèrent au clocher surplombant la ruette, relayé en écho par ceux de la chapelle du Saint-Esprit à l'entrée du pont du Rhône. Le crépuscule tombait peu à peu sur cette humide et froide journée d'octobre, noyant dans l'ombre le corps inerte du recteur de l'hôpital. Entre les pavés inégaux et disjoints, la pluie éclaircissait le sang qui s'écoulait de la large plaie qui s'était faite au front. Voilà, donc tu vois, on est tout de suite plongé directement dans le Lyon de cette époque, avec le nom des rues, avec le nom des quartiers, avec les ponts, etc. Donc c'est direct une plongée dans Lyon. En plus, elle conserve un style vraiment un peu moyenâgeux avec les mots de l'époque. Hein. On l'a vu, par exemple, ruelle, qui s'écrit plus ruette, hein, avec deux T. Donc elle conserve quelques mots, sans que ça soit non plus trop lourd et complètement illisible, mais elle conserve quand même quelques termes vraiment de l'époque, pour être vraiment complètement plongé dans le Moyen-Âge lyonnais.
Alors, est-ce que ça rejoint aussi certains termes lyonnais ?
Alors oui, ça rejoint certains termes lyonnais. Y a des lettres, de toute façon, qui s'écrivaient différemment à l'époque, au Moyen-Âge. Il y a aussi pas mal d'héritages du latin. Et il y a des mots de patois lyonnais qui déjà existaient à cette époque-là. J'ai pas d'exemple précis qu'elle a pu mettre dans le livre, mais enfin, en tout cas, il y a des mots patois lyonnais qui existaient déjà à cette époque-là, qui ont pu perdurer encore jusqu'à nos jours. Et même si le patois lyonnais se perd un petit peu, de plus en plus, il y a quand même des mots qui existaient. Hein. On peut penser par exemple les équevistes, qui signifiaient les déchets. Bon, c'est un mot qui se perd complètement, mais qui est un mot de patois lyonnais qui est très très ancien.
Toi, tu as choisi la thématique de Lyon et sa région pour une idée spécifique ou c'est parce que tu es lyonnais?
Bah oui, c'est parce que je suis lyonnais, parce que il y avait, le, comme tu le sais, le, la tradition familiale de la librairie à Lyon, depuis le 19e siècle. Donc il y a cet ancrage-là, ouais, cet ancrage familial de, à Lyon, et c'est pour ça qu'on a voulu le continuer. Après, on élargit un petit peu aussi, c'est pas que Lyon à 100%, hein, c'est quand même la région élargie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on fait pas mal de choses sur Lyon, et toujours un peu mêlé aussi à l'histoire de Lyon, à ce qui a pu se passer. Enfin, à Lyon, c'est quand même une ville où il s'est passé énormément de choses d'un point de vue historique. On parle du Moyen-Âge, mais aussi au XVIIIe siècle, avec les Canuts, ensuite, et puis Première, Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même eu une forte tradition d'une ville mystérieuse, mais où il se passait quand même beaucoup de choses. Donc.
Du coup, oui, moi j'avais déjà invité aussi ton papa qui a sorti un livre qui s'appelle Une famille de libraires dans la résistance. Donc c'est ton héritage, c'est une famille de libraires, une des premières librairies à Lyon.
Oui.
C'est ton arrière-grand-père.
Arrière-arrière-grand-père même, oui. Ouais.
Voilà, donc le premier documentaire, c'est à l'époque de la Première Guerre mondiale.
Oui, alors, on
reprend les choses chronologiquement.
Oui, alors le premier qui nous reste, ouais, c'est ça, c'est plus la Première Guerre mondiale, mais en fait, la librairie, ouais, elle était créée en 1880, donc c'est même encore plus vieux que ça. Et elle était rue d'Algérie, juste à côté d'ici. Hein, ouais.
Donc il y a ces livres en documentaire qu'on peut commander sur ton site.
Voilà, il y a tout.
Et puis, donc, ton papa, je fais un petit coucou, je fais une dédicace. Il est déjà venu dans cette émission, je vous conseille de réécouter en podcast ces émissions qui sont passionnantes et qui parlent de l'histoire de Lyon à travers certaines époques marquantes. Donc là, c'est une famille de libraires dans la résistance de 39-45 à la librairie Crozier qui se trouvait rue d'Algérie. Donc, librairie Crozier Saint-Augustin à Lyon. Et puis, il y a un autre que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais re-recevoir ton papa bientôt pour parler des renseignements et faux papiers, mon parcours de résistant de Lyon au camp de Buchenwald.
Oui, alors ça c'est le parcours de Jean Nalitz, un ancien résistant donc, de la Deuxième Guerre mondiale, qui est toujours en vie, qui a lu rare. Et qui a un parcours absolument extraordinaire. Il est rentré très 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 jeune dans les mouvements de résistance lyonnais. Par
pure
conviction.
Je pensais à un autre en fait que j'ai pas ramené avec moi, c'est les témoignages que ton papa a reçus.
Ah oui. Ouais,
des gens qui racontaient leurs souvenirs de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, quand ils faisaient des moments de dédicace.
Oui.
Coup, il a recueilli tous ces témoignages et il en a fait un livre.
Tout à fait. Qui s'appelle Ce fut leur histoire.
Voilà, et du coup, je l'avais assimilé à celui-ci. Donc, il y avait beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale à Lyon. Et on apprend aussi des choses sur le contexte, sur Lyon, comment était Lyon à cette époque, même la météo, les grands hivers.
Oui, on apprend pas mal de petits détails. Par exemple, ce qui est assez marrant dans le livre Un couple au cœur du conflit, hein, qui est sur la période 14-18, on apprend notamment par des articles de presse hein, qui ont été retrouvés qu'il y avait déjà à Lyon, parce qu'on en parle maintenant beaucoup, mais du foot féminin qui était extrêmement développé. Parce que la plupart des hommes étaient partis au front et donc du coup il n'y avait plus de footballeurs et du coup c'était les femmes qui jouaient au foot qui étaient extrêmement suivies. Donc aujourd'hui on nous parle du foot féminin en disant que c'est nouveau, ben non, à Lyon en 14-18, donc il y a 100 ans, le foot féminin était déjà extrêmement suivi et extrêmement développé. Donc c'est marrant effectivement de retrouver quand on s'intéresse un peu comme ça à l'histoire de la ville, de retrouver des petits détails comme ça qui font que qu'on redécouvre un petit peu sa ville et ce qu'il y a pu avoir, enfin son histoire.
À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on voit la fonction des traboules comme étant des parcours qui permettent d'échapper aux persécuteurs. Donc les résistants se sauvent par les traboules, connaissent les raccourcis.
Oui.
Donc il y a eu plusieurs fonctions à ces traboules. En fonction, c'était pas que pour les canuts qui pouvaient reprendre ces raccourcis pour la soie. Ça a été utilisé pour pouvoir échapper
Oui, oui, les traboules ont été beaucoup utilisées par les résistants, hein, par tous les résistants d'ailleurs, que ce soit les résistants communistes, FTP, ou les résistants des mouvements gaullistes, FFI, etc. Tous les utilisaient beaucoup, ils les connaissaient par cœur, ils n'avaient jamais sur eux, bien évidemment, les plans, pour si jamais ils se faisaient attraper par les Allemands, que les Allemands ne puissent pas remonter les différentes rues, les différents passages. Donc c'était tout dans la tête, et il y a un nombre incalculable effectivement de résistants qui ont réussi à échapper aux nazis ou à la police de Vichy ou à la Gestapo en utilisant les traboules, ouais, traboules lyonnaises. Ouais.
Et puis l'histoire des souterrains, donc qui inspire beaucoup de jeunes romanciers et romancières.
Oui,
parce qu'elles ont plein de symboliques différentes, et finalement il y en a, on ne sait pas vraiment à quoi elles étaient utilisées encore. Il y a plusieurs suppositions sur ces fameuses arêtes de poissons, ça pouvait aussi être des pour l'eau, pour
oui, alors les souterrains,
monter, descendre de la colline. Ou...
C'est assez incroyable, ouais, cette histoire des souterrains lyonnais, hein, parce que il y en a plein sous la ville de Lyon, un peu partout. Aujourd'hui ils sont tous condamnés, alors il y en a quand même certaines personnes qui réussissent à y descendre. Alors risque et péril, parce qu'il y en a qui s'effondrent. Mais c'est oui, il y a plein de théories qui existent dessus. Les plus anciennes remontent à l'époque romaine. Donc effectivement, t'en parlais, qui auraient été simplement des souterrains pour approvisionner l'eau à Lugdunum. Il y a des théories moyenâgeuses, donc là plus autour de la famille de Beaujeu qui aurait fait construire ces souterrains-là. Donc relié à tout l'univers, hein, des Templiers de cette époque-là. Et ils ont été utilisés à différentes époques, mais sans qu'on sache véritablement quelles étaient leurs histoires, pourquoi est-ce qu'ils ont... quelle est leur raison d'être. Mais c'est assez incroyable. Il y a des salles, des ruelles, des indications, des croisements. Enfin, c'est comme une ville sous la ville. Hein. C'est pas juste 3-4 souterrains, bah, par-ci par-là. Il y a même des salles voûtées. Enfin, et aujourd'hui, bon, on commence à en reparler un petit peu plus. Et donc, il y a deux très bons ouvrages qui en parlent. Le premier de Walid Nazim. Qui s'appelle L'énigme des arêtes de poissons, qui est un docu extraordinaire. Hein. Il a fait vraiment un très très gros boulot sur la question. Il est même en train d'en faire un livre. Et puis le deuxième, bah, c'est celui de Julie Subirana, hein, que tu avais reçu, donc, qui est aussi fortement documenté sur la question. Hein, les enfants indigo.
Et qu'il utilise comme lieu de sorcellerie, entre autres, donc,
voilà.
Pour des sectes.
Voilà. Ce qui est aussi une des fonctions actuelles ou récentes. On sait qu'il y a une vie nocturne souterraine, alors soit sataniste, soit des fois un peu sectaire, enfin qui existe actuellement ou qui a pu exister il y a quelques années dans ces souterrains-là. Donc elle, c'est sur cette dimension-là aussi qu'elle l'aborde.
Je vous propose une petite pause musicale, j'ai le temps de boire un verre d'eau. Ne quittez pas, vous êtes dans Patchworld. Et tout à l'heure, on parle de quel livre, juste après cette pause musicale?
Alors tout à l'heure, on parlera de L'Arrière-Cour, qui est un thriller psychologique qui se passe dans le Vieux-Lyon.
Voilà, et là, je vous fais écouter Tangram, et c'est l'album qui s'appelle Imago, et le morceau, c'est Phoenix.
La fin d'un sommeil, d'un hiver nucléaire. Retrouver la lumière, la chaleur nourricière à 200% sur les sentiers ascendants, à feu et à sang dans les brasiers du levant. À chaque nouveau départ, un nouvel arrivé. À chaque nouveau regard, un nouvel irradié. Éternelle renaissance, chaque jour il recommence. À sortir de la mer, incendier toutes les terres. La fin d'un sommeil. We'll be right back.
C'était le groupe Tangram, un groupe aussi lyonnais à découvrir. L'album c'est Imago et vous venez d'entendre le morceau Phoenix. Alors Tangram, c'est Guillaume Dussably et Benjamin Vaude. Et ça date de 2016. C'est très électro. Hein. Guillaume est aussi prof de MAO. On parlait tout à l'heure de Live à Bolton avec Hervé qui est musicien aussi. Donc Hervé qui est venu nous parler, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, du festival Soltrock, qui sera le samedi 1er juillet au parc Georges Bazin. Voilà. Et donc, notre deuxième livre du jour, Guillaume, après cette petite respiration musicale.
Oui, tout à fait.
Et malgré la chaleur, c'est bien, c'est courageux.
Voilà, malgré la chaleur. le deuxième, c'est un livre un peu plus sombre, un peu plus noir, vraiment sur fond de manipulation. Ça s'appelle L'arrière-cour, d'Armand Géco. Et le pitch de départ, c'est donc le héros se retrouve emprisonné, enfermé dans l'arrière-cour, dans une arrière-cour de vieux immeubles lyonnais. Une arrière-cour qui existe vraiment d'ailleurs, comme la couverture le montre. Et il y a quelqu'un qui le manipule en fait, qui le tient enfermé, mais qui lui ouvre des portes, qui lui permet de faire monter des fois des étages, d'aller dans des appartements abandonnés, puis etc. etc. Il le manipule et le héros ne sait pas pourquoi. Il le laisse vraiment en très légère survie, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il donne vraiment le minimum pour survivre, un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de nourriture, pas plus. Et on est vraiment toujours sur le fil du rasoir, donc c'est très psychologique, vraiment très manipulation à fond. Mais c'est vraiment bien mené, bien écrit. Alors c'est un premier livre, parce que pour Armand, donc, c'est son tout premier livre, qui a obtenu le prix littéraire Canut 2016. Et qui est très bien ficelé. Voilà. Donc là, pour le coup, on en découvre peut-être un petit peu moins sur Lyon, parce que ça se passe exclusivement dans cette arrière-cour de vieux immeubles lyonnais. Mais il y a vraiment cet ancrage local qui est présent.
Est-ce qu'on situe quand même des endroits de Lyon ou pas du tout ?
Oui, alors on situe complètement où ça se passe. On situe aussi sur le fait qu'il a un ami et sa femme qui vraiment entament rapidement les recherches pour le retrouver, donc qui eux sont lyonnais et qui donc eux sont vraiment naviguent dans le cœur de la ville. Donc là on voit un petit peu plus la ville de Lyon. Mais sur le personnage principal, lui, il est complètement enfermé dans cette arrière-cour, donc il en sort pas. Hein.
T'as un extrait par exemple qui parle d'un.
Oui, je peux aussi faire un extrait. Alors, donc c'est en plein milieu du livre, là. Hein, tout à l'heure c'était le début, là c'est en plein milieu du livre. La cage d'escalier du 44 bis était silencieuse. Des particules de poussière flottaient dans un rayon de soleil. Certaines se détachèrent de l'immense colonie en suspension et montèrent dans les étages, chassées par un léger courant d'air. Elles se volatilisèrent devant la porte du quatrième. À l'intérieur de l'appartement, Dan était allongé par terre. On aurait pu le croire mort, mais un infime mouvement de son torse laissait deviner sa respiration lente. Il rêvait. Ses pas l'avaient entraîné sur les pentes raides de la montée des Épis et de la rue Armand Caillat, jusqu'au croisement de la montée du Gourguillon. De là, le panorama qui s'offrait aux voyageurs endormis embrassait une large partie de la ville de Lyon. Son regard quitta l'arrière du 44 bis et son jardin d'enfants, et s'attarda alors sur le vieux Lyon, et fixa au loin la tour de la Part-Dieu, son ancienne vie aujourd'hui inaccessible. Un soupir monta de son cœur. Il se répandit sur le monde. Dan n'était plus qu'un être fait d'émotions, et celle-ci avait le grand pouvoir de faire renaître le passé. L'esprit du rêveur redescendit jusqu'à l'angle de la rue Saint-Georges. Des ruines du rez-de-chaussée naquirent les murs d'un commerce, l'économique. C'était une supérette avec des voûtes de pierre et des rayons toujours pleins. Sa zone de chalandise s'étirait jusqu'au bord de la Saône et même au-delà de la passerelle. Dan circula à l'intérieur du petit magasin. Parmi les produits d'autrefois, il reconnut une boîte de poudre à base de chocolat. Instantanément, le goût du mélange, devenu épais une fois associé à du lait échauffé dans une casserole, lui revint en bouche. Il se retrouva au croisement juste en face de l'économique. Le soir s'était mué en une journée lumineuse d'été qui l'obligea à plisser les yeux. Sur le trottoir, une petite boutique se cachait derrière des étals généreux en senteurs et en couleurs des sables et du soleil d'Afrique. Dan passa au milieu de quelques spécialités de ces pays accueillants et si lointains. Il se pencha sur des gâteaux colorés et luisants remplis de miel et de sucre, traversa une forêt de paniers en osier qui débordaient de fruits, les uns secs, les autres gorgés d'eau, et plongea entre des sacs de toile gonflés de semoule. Et son rêve le fit alors effleurer les petits carreaux colorés qui couvraient le sol. Et tout en douceur, son esprit le ramena dehors.
Merci Guillaume pour cet extrait de livre. Et donc la photo, c'est la cour des loges, tu disais.
Voilà, tout à fait. La photo, c'est la cour des loges, hein, donc dans le Vieux Lyon, dans le 5e. En fait, la photo du livre, hein, est vraiment une plongée vers le haut, hein, comme si on voyait le ciel fuyant à travers les immeubles de cette cour, comme si on était en fait le personnage, hein, comme si on était Dan allongé dans la cour, dans cet état un peu léthargique dans lequel quelqu'un le place et quelqu'un joue avec lui.
On refait une petite pause musicale ou tu as des choses encore à nous dire sur ce roman? Il est sorti quand, sur l'arrière-cour?
Alors le roman est sorti en 2015. On le trouve encore en rayon dans les librairies. L'auteur aussi est régulièrement en dédicace dans la région, donc il y a vraiment toujours moyen de le retrouver. Pour ça, de toute façon, il y a toutes les infos, toutes les actualités sur notre site internet et puis aussi sur le sien, hein, donc Armand comme le prénom mais sans D, et Gecko, J-E-C-K-O. En tapant sur les moteurs de recherche, on tombe tout de suite sur son site internet et lui il met toutes les infos de là où il dédicace, de là où il est présent. Aujourd'hui il est un peu plus sur le sud de la France maintenant, mais il revient très très régulièrement à Lyon pour faire des dédicaces. Il en a fait régulièrement une à Caluire, une à Vaux-en-Velin au Gilbert Joseph, donc il est régulièrement dans la région.
Est-ce que toi, tu as quelques librairies à citer sur Lyon même où on trouve facilement tes livres, où ils sont bien mis en avant?
Bah alors, de toute façon, ils sont commandables partout, mais oui, on les trouve en rayon alors, dans plusieurs librairies de Lyon, la librairie des Canus, donc, qui est sur le plateau de la Croix-Rousse, hein, il y a Les Yeux dans les Arbres aussi, qui est sur le plateau de la Croix-Rousse, la librairie du Tramway, dans le 7e.
Oui, vers la Bourse du Travail, je pense que c'est le 3e.
Peut-être le 3e.
C'est vers la place Guichard.
Oui, voilà, vers le Palais de Justice, oui.
Oui, oui.
Il y a la librairie du cours, qui est cours du docteur Long, donc là dans le 3e aussi.
Oui, c'est plus mon chat, là, je crois.
Voilà, plus mon chat. Dans le 6e arrondissement, c'est plus la librairie de la page suivante, une librairie qui vient d'être reprise, qui est très active. Sur les pentes ici, donc il y a la librairie Un Petit Noir, qui est un café libraire qui fait que du roman policier.
T'as le nom de la rue, non? Parce que moi je connaissais pas.
C'est Monté de la Grande Côte.
D'accord, c'est récent alors.
Il y a quelques années qu'il est là, mais c'est pas très très ancien, ouais, c'est sûr.
Mais je connaissais pas, donc ça sera à découvrir, parce que si on peut se poser, ça c'est bien.
Oui, voilà, tout à fait. Hein. C'est possible de consommer, de prendre un café ou de prendre une conso, et puis en même temps découvrir un polar. Surtout que le gérant s'y connaît vraiment, vraiment pas mal.
Donc spécialisé polar, roman policier.
Spécialisé polar, oui. Spécialisé polar.
On fait une petite pause musicale. Et le troisième livre que tu as apporté aujourd'hui?
Et alors le troisième livre que j'ai apporté, qui s'appelle Donner ses données, de Xavier Vericel, qui se passe aussi, alors là, intégralement à Lyon.
Très bien, voilà, on garde le suspense pour les 10 dernières minutes. Et le groupe, je te fais découvrir ou redécouvrir, c'est The Os. Pierre, l'auteur-compositeur, était venu nous présenter son groupe The Os. Ils sont au moins le 4 ou le 5e ou 6e album. Déjà, ça fait bien une dizaine d'années qu'ils sévissent. Et c'est du métal. Et bon, je vais découvrir aussi à Quentin, qui a l'air de s'y connaître en métal français. que j'aime bien dans le métal, c'est quand on fait du clavier, on apprend à travailler ses gammes, parce que les arpèges, on a un tempo à plus de 200 là. C'est Zios. Zios, et c'est l'album Consequences. Voilà, on disait que sur l'image, il y avait aussi sur les guerres de religion, une image sur les Templiers.
Oui, ça fait du lien.
Pochette rouge et noire. Et donc, c'est le premier titre de l'album Never to be seen again. Groupe de métal lyonnais à découvrir, Zios, O-A-T-H. C'est au moins leur 4e ou 5e album, peut-être plus. Alors pour le dernier livre, Guillaume, notre invité du jour, Guillaume de Uffredi, pour les éditions Les Passionnés de Bouquins. Et c'est vrai que c'est un passionné, il sait nous transmettre des bons, très bons choix de livres. Alors on n'a pas redit un petit peu des choses sur ton édition, parce que tu t'es déjà venu dans l'émission, et du coup vous pouvez podcaster peut-être pour avoir des choses plus en détail sur la présentation des éditions. Donc aujourd'hui, le dernier livre que tu nous as amené à découvrir...
Alors le dernier livre, le dernier polar, hein, puisque là c'est 3 polars lyonnais, donc il s'appelle Donner ses données, de Xavier Vericel, un polar qui est très bien écrit, qui se passe intégralement à Lyon aussi, donc, et là vraiment on découvre tout Lyon et tout le vieux Lyon. La photo de couverture d'ailleurs, c'est la montée du Gourguillon, donc les Lyonnais reconnaîtront, et puis les autres découvriront. Et le pitch, c'est l'histoire d'un jeune homme. Le début est assez classique, hein, l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une fille, ils se mettent ensemble, etc. Bon, sauf que elle est retrouvée assassinée, et tout l'accuse en fait. Hein, tout accuse le héros, hein, tout accuse Pascal. À un tel point que ça devient vraiment troublant. Son décès en fait. Semble assez anodin, mais petit à petit il y a une cabale, hein, qui se met en place contre lui, et on suit ce héros qui en prend de plus en plus en fait sur lui, hein, qui est de plus en plus acculé, et c'est extrêmement haletant. Il y a finalement peu de descriptions, donc pour ceux qui ont moins l'habitude de lire, ou ceux qui veulent des fois un peu reprendre la lecture, et ben c'est vraiment le type de livre qu'il faut prendre. Parce qu'il y a vraiment un rythme extrêmement soutenu, on s'ennuie jamais, on a tout le temps envie de savoir la suite. On part pas dans des descriptions trop longues. Le livre d'ailleurs est pas très très volumineux, et en plus on est maintenu en suspense vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à 3 ou 4 pages avant. C'est vraiment pas le dénouement, on voit vraiment pas ce qui peut arriver, et tout s'éclaire comme par magie sur les 2-3 dernières pages. Donc c'est vraiment bien ficelé. Donc, ça s'appelle Donner ses données. Xavier Vericel. Et là, c'est un livre qui est sorti très récemment, donc on trouve en librairie, ou de toute façon qui sinon est commandable. Et l'auteur sera présent dans le cadre donc du salon Fête du Livre, qui est mis en place du 19 au 24 juin par la mairie du 1er arrondissement. Il sera présent le samedi 24 juin, place Satonnet, hein, donc sur le stand de la maison d'édition, sur le stand des éditions Les Passionnés de Bouquins. Il sera présent pour dédicacer son livre, pour le rencontrer, pour parler avec lui. Il fera partie des auteurs présents. Donc le 24 juin, place Satonnet, dans le 1er arrondissement.
Le 24 juin, ça c'est noté. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte sur Lyon? Pareil, t'as un petit extrait éventuellement?
Alors pareil, on peut faire un petit extrait. je peux lire le prologue. Alors qui a pas vraiment un ancrage là sur la ville de Lyon, mais qui résume, enfin qui lance bien, je trouve. Donc le prologue. Épaisse et patinée par les ans, la porte en chêne massif ressemble à celle de tous les immeubles de la rue. Rien ne signale aux passants l'entrée d'une clinique psychiatrique. Une plaque en cuivre, à moitié masquée par des feuilles d'ampélopsis, indique simplement résidence Notre-Dame-des-Lices. L'extrémité nord du rez-de-chaussée est occupée par une unique pièce, pompeusement baptisée service des urgences, probablement pour glaner quelques précieuses subventions. Cette chambre exiguë ne mesure pas plus de 5 à 6 mètres carrés, encombrée d'une robuste table de chevet en ferraille, coincée entre un lit métallique au montant égratigné et un lavabo entartré. Au fond de la pièce se trouve une patiente qui ne semble rien entendre. Elle se tient immobile sur le lit, agenouillée face au mur, les bras comprimant sa poitrine. Elle n'est qu'une boule, un escargot rentré dans sa coquille, un hérisson effarouché. Elle est vêtue d'une chemise en coton nouée autour de son cou, comme un long bavoir qui laisse dénuder une large bande de son dos et la majeure partie de ses fesses. Ses cheveux, d'un blond sombre comme sont les épis sous la pluie, retombent sur ses épaules en mèches grasses. La malade est totalement figée dans cette prostration. On croirait une photographie. Trois personnes veillent à son chevet. Les deux premières portent une blouse blanche. Le médecin, un homme déjà mûr, est accompagné d'une jeune infirmière. Le troisième individu est un officier de police, un quadragénaire roux, qui chuchote. « Elle dort ?» L'infirmière tourne le visage dans sa direction pour lui demander. « Pardon ?» Il ose à peine parler plus fort. « Est-ce qu'elle est endormie ?»« Non, non, seulement sous sédatif, depuis plus de 3 heures, » répond le médecin en se retournant. Il explique aux policiers que lorsque les pompiers l'ont amenée, les aides-soignants ont dû commencer par laver la patiente de tout le sang qui la maculait. Ici, les admissions étaient souvent consécutives à une bagarre ou à une tentative de suicide, rien de très extraordinaire. Sauf que cette femme n'avait absolument rien, pas une blessure, pas même la plus petite égratignure. Elle était éclaboussée d'un litre de sang au bas mot, mais elle était indemne. Ce sang n'était pas le sien. Un bruissement furtif s'élève du côté du lit. La malade s'est recroquevillée sur un coin de la couchette, adossée au mur, les genoux ramenés sous le menton et les bras enlaçant ses jambes au niveau des mollets. Ses yeux grands ouverts sont dirigés vers le trio. Mais ce regard est vide, tourné vers l'intérieur, accroché à quelques lambeaux de vie, englué dans Dieu sait quel drame. C'est une très jeune femme, à peine 30 ans sans doute. Elle a des yeux d'un bleu très clair, deux gouttes d'eau d'un lagon paradisiaque. Malgré sa pâleur extrême et son regard absent, elle semble en bonne santé. Ses vêtements étaient entièrement tachés, interroge le policier. Oui, elle ne portait qu'un imperméable, sous lequel elle était totalement nue. Le manteau n'était pas souillé extérieurement, sauf aux pointes du col. Elle avait dû le tenir serré avec sa main pour se protéger du froid. Dessous, son corps semblait presque entièrement rouge, comme si le sang avait jailli de son bas-ventre et lui avait inondé les seins et les cuisses, d'où il avait coulé en rigole jusque sur ses pieds nus. Ses mains aussi, surtout la gauche, en étaient badigeonnées. Seul son visage et sa chevelure étaient à peu près épargnés. Lorsque nous l'avons retiré son imperméable, il collait à sa peau, signe qu'elle l'avait enfilé sur le sang frais. Lorsque nous sommes parvenus à desserrer l'étau de ses doigts et à lui arracher le flacon qu'elle tenait, elle a éclaté en sanglots, comme un gosse auquel on aurait volé son objet ou son jouet préféré. Vous dites qu'elle tenait un flacon ? Qu'est-ce qu'il contenait exactement ? L'infirmière interroge son patron des sourcils, comme pour lui demander la permission d'en parler. Celui-ci plonge la main dans la poche de sa blouse et en retire un petit pot en verre fermé par un bouchon en métal blanc. Il le tourne dans sa main et semble se perdre dans la contemplation des olives noires sur l'étiquette. Donner, c'est donner. Et ce flacon presque encastré dans sa main. Qu'est-ce que cela signifie ? À cette heure, nous n'avons qu'une seule certitude, termine pensif le médecin en tendant le bocal au policier. Le sang qui la recouvrait n'est pas le sien, il n'est pas d'origine animale non plus. L'enquêteur se saisit du flacon et se lève vers le plafonnier pour en éclairer le contenu. En contemplant le banal pot d'olive à la grecque, il a haut le cœur. Alors du lit monte un cri déchirant. « À moi, donner, c'est donner. » Donc « Donner, c'est donner », le titre de l'ouvrage.
Merci Guillaume. Bon, ça va être là, on va rendre l'antenne, parce que juste après nous, on a Lilith Martin et les autres qui ont des fameux invités, donc je vais leur laisser un petit peu d'antenne. Allez, on lance le générique. Toujours les Washington Dead Cats, que j'aime beaucoup. Mais quand même, avant de se quitter, quelques annonces. Et une qui concerne encore les passionnés de bouquins. Édition Les Passionnés de Bouquins, qui parle de Lyon et de ses environs. Merci de m'avoir offert ce livre, une odeur. Peut-elle manipuler celui qui la sent, modifier nos comportements, provoquer l'amour, la répulsion, la douleur, la peur, sans que nous en soyons conscients? C'est le sujet du livre, du roman de Julie Subirana, L'odeur de la peur. Et j'ai adoré. Voilà, encore un sujet extrêmement intéressant. On avait parlé des plantes l'autre fois avec les enfants indigo. Elle était venue déjà dans cette émission. J'espère l'occasion de la revoir dans l'émission parce que j'ai plein de questions à lui poser sur les odeurs, du coup. Et puis, ma foi, passez un excellent week-end. Merci à toi d'être venu, Guillaume. Juste d'autres petites infos. La revue Cabaret qui est sortie, c'est Il et Elle, été 2017. C'est la revue Cabaret, Le Petit Rat meurt. Et c'est 31 rue Lamartine à la Clayette. Voilà, vous pouvez commander. Ce sont des poétesses. C'est un recueil de poétesses. Et puis le Salt Rock Festival, un jeune festival qui dure sur la journée le samedi 1er juillet de 15h à minuit, parc Georges Bazin, Lyon 3e. Voilà, touche 70s, bienvenue. Avec en concert Moony Daylight, le groupe Zakaroz et Hit Kid. Voilà, il y a 22h à minuit, on a DJ set en clôture du festival. J'aurai le temps de vous en reparler puisque c'est le 1er juillet, le festival du livre. Donc c'est Fête du Livre Lyon 1er du 19 au 24 juin. Et donc vous pouvez avoir toutes les infos sur www.cedra.org. Et puis pour les invités de vie urbaine du 21 au 24 juin, je vous conseille de découvrir le trio vocal Trio Cosmos. Donc le mercredi 21 juin pour la fête de la musique à 14h, c'est au Village du Centre. Le vendredi 23 juin à 17h45 et le samedi 24 juin à 13h30, c'est avenue Henri Barbus. Donc toutes l'info et les programmes sur les invités de vie urbaine et à découvrir le trio qui s'appelle Trio Cosmos. C'est un trio vocal féminin. Merci Quentin. Tiens, je te passe tes impressions sur la radio, Radio Canu.
Merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir bien reçu. J'ai pu bien observer. En plus, on avait un super invité. Guillaume est très passionné de littérature et d'histoire, ce qui est super intéressant. Et j'espère à bientôt.
Merci Guillaume. À très vite pour d'autres découvertes sur Lyon et sa région.
Avec plaisir.
Salut, passez un bel été. Et puis tout de suite, Lilith, Martine et les autres. Et n'oubliez pas, ventre affamé n'a point d'oreille.
Vous venez d'écouter Faravula, interprété par Régis Guiza, vous le célèbre accordéoniste malgache.
Voilà, ensuite il y avait le morceau Dawn du groupe de jazz fusion des années 70 qui s'appelle Mahavishnu Orchestra.
Et enfin, c'était le non-séant de King Automatic avec My Shark sur 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Yeah, man.
Maléfique.
Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
L'absurdité.
Des portraits, un soupçon d'actualité, une louche de solidarité.
On n'est pas des cadeaux.